OK, ça s'intitule « OVNI au Québec, des observations aux enlèvements extraterrestres. 80 ans d'incidents énigmatiques. » Christian Page, l'auteur. Bonjour.
Bonjour, Bernard.
Alors, écoute, on va prendre des appels dans l'autre bloc.
Oui.
Et je t'ai prévenu, je veux pas que tu nous résumes tout ce qu'il y a dans ton livre. Je veux que tu nous prennes les deux meilleures histoires d'OVNI. Celles qui, à ton avis, sont les plus troublantes, celles qui pourraient peut-être convaincre quelqu'un que ça se pourrait peut-être que ça existe.
Okay? Si je regarde dans le catalogue des observations d'OVNI à l'échelle de la planète, je te dirais que l'observation d'OVNI la plus spectaculaire, la plus troublante que je connaisse,
oui,
s'est produite au Canada en 1967. Et ça a beaucoup rebondi, cette histoire-là. Je la résume en quelques mots. On est en mai 1967. On se trouve à Falcon Lake. C'est à la frontière de l'Ontario et du Manitoba.
Oui.
Et on a un prospecteur, un type qui s'appelle Stéphane Michalak. Et, c'est un mécanicien industriel, mais sa grande passion, c'est la prospection minière. Donc, c'est son hobby. Et donc, on est un samedi après-midi, il est arrivé la veille dans la région, et en ce samedi, un beau samedi après-midi, on est le 20 mai, il s'en va en forêt, et là, alors qu'il est en train de faire de la prospection, il est à peu près midi et demi, il voit arriver deux objets dans le ciel. L'un d'eux reste en l'air, mais l'autre se pose à quelques mètres de lui. Donc, Michalak se dissimule derrière un rocher. Il regarde cette machine. Il faut savoir qu'en 1967, on parle beaucoup de la conquête de l'espace.
Mm-hmm.
Et on a vu toutes sortes de modèles et de dessins, des photographies dans les journaux et les magazines. Et Michalak ne pense pas à ces soucoupes volantes. D'abord, il croit pas beaucoup à ça. Ça l'intéresse pas du tout. Il voit cette machine. Et là, elle est posée devant lui. Elle fait à peu près, là, 10 mètres de diamètre sur 4-5 mètres de haut, et il a l'impression qu'elle est faite d'un seul bloc, elle est argentée d'un seul bloc, et là, il y a une trappe qui s'ouvre sur le côté de l'objet. Michalak pense qu'il s'agit peut-être d'un véhicule américain, alors il s'approche et il dit comme ça en anglais, « Hey, les Yankee Boys », il pense d'abord aux Américains, il dit, « Hey, les Yankee Boys, avez-vous des problèmes avec votre machine ?» Pas de son, pas de bruit, rien, que cette porte ouverte d'où sort une luminosité violette. Il continue de s'approcher de l'objet, repose la question cette fois en français, il la pose en ukrainien, il la pose en russe, il est polyglotte, il parle 5 ou 6 langues, toujours pas de réponse. Et là, finalement, au moment où il est aux côtés de l'objet, il se rentre la tête dans l'objet, il voit rien, c'est trop lumineux, il se retire, met sa main sur la machine, et à ce moment-là, la trappe se referme, la base de l'objet pivote, et là, il y a une espèce de grillage sur le côté de l'objet. Ce grillage-là se met vis-à-vis de lui. Est-ce que c'est par accident? Est-ce que c'est volontaire? Peu importe, il y a un souffle d'air chaud qui sort de cette grille, qui met le feu aux vêtements de Michalak.
Hein?
Il se roule dans l'herbe, et le temps d'éteindre l'incendie, l'objet a commencé à s'élever, il s'éloigne et il disparaît dans le ciel. Michalak rentre chez lui à Winnipeg et écoute, il se rend à l'hôpital. Il dit qu'il a été victime d'une espèce d'accident avec un avion. On constate en effet qu'il a été irradié. Il va subir des traitements à l'Institut Mayo du côté de Rochester aux États-Unis. Il y aura une double enquête du gouvernement canadien, une part de la GRC, d'autre part par le ministère de la Défense. On va se rendre sur place. On va isoler pendant des semaines l'endroit où Michalak dit avoir rencontré sa machine.
Est-ce qu'il y a des traces?
Oui, il y a des traces qui ont été laissés, on voit, il s'est comme posé sur une surface rocheuse et toute la surface de la roche où il y avait une espèce de mousse végétale a été enlevée. Lui, Michalak, bien sûr, et là, c'est sur son abdomen, on voit, il y a des photos célèbres où il est à l'hôpital, et on voit sur son abdomen la grille. Quand le souffle d'air chaud l'a brûlé, non seulement il a mis le feu à ses vêtements, mais il lui a brûlé la peau, et on voit sur son abdomen des brûlures en forme de damier. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. À mon avis, l'histoire numéro un de toutes les histoires d'OVNI, et j'avoue ne pas avoir la moindre explication. Et jusqu'à maintenant, on a supposé est-ce qu'il pouvait s'agir d'un engin provenant d'un arsenal militaire ou autre. Jamais à ce jour, on n'a jamais vu un objet comme celui-là. Il faut que je te rappelle d'ailleurs qu'il y a 3 ou 4 ans, le gouvernement canadien a commencé on en est maintenant à une 3e pièce de monnaie qui a été frappée à l'effigie d'images d'OVNI. Et inutile de dire que la première pièce de monnaie que la monnaie royale canadienne ont frappé à l'image des ovnis. C'est une pièce de monnaie de 25 $ en argent qui rappelait la fameuse rencontre de Stephen Mikalak. C'est
à
la
Falcon Lake.
Bon. La meilleure histoire. Okay. Au Québec. Oui. Si on va du côté du Québec, l'histoire.
Alors, je commence un peu là. 790-9850. Si vous pensez avoir vécu une histoire, une anecdote, une expérience, voilà le mot que je cherchais, une expérience du type rencontre du troisième type, du type extraterrestre, appelez-moi 790-9850 ou encore écrivez-moi 9895, Drainville, la commerciale, 985FM.ca. Christian, ramasse-moi ça en une minute, ton histoire, parce que moi, je veux prendre des appels, tu comprends?
Parfait. Donc, la deuxième histoire, parce que dans le cas de Mikalak, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des traces physiques. Hein. L'homme est brûlé, il y a des traces au sol. Ce sont les meilleures observations d'OVNI, celles qui laissent des traces, les observations dites du deuxième type. Et le 20 novembre 1989, au Québec, en Montérégie, on est à Sainte-Marie-de-Montnoir, il est à peu près 5h30 du matin, Sainte-Marie-de-Montnoir, c'est aujourd'hui là, annexé à la ville de Marieville. Donc, les gens sont réveillés par une espèce de bourdonnement dans l'air et des lumières. Ils regardent et, dépendamment de l'endroit où ils sont situés, ils voient des espèces... Un des témoins dira, ça ressemblait à un wagon de train dont les fenêtres auraient été allumées durant la nuit. Là. C'est donc, on voit des carrés dans le ciel, on devine un objet sombre, même si on le voit pas. Et cet objet semble s'élever du sol de derrière une maison du voisinage. Alors, et là, on parle de dizaines de témoins qui voient ça. Et 48 heures après, à l'endroit où l'objet semblait s'être posé, on est le 20 novembre, là, on va trouver un cercle d'herbe de 20 mètres de diamètre, parfaitement rond, où l'herbe a reverdi comme en été. C'est tellement impressionnant que les gens sur place, les enfants jouent dans cette enclave, dans ce terrain vague. Donc, on va appeler la GRC. Est-ce que ça a été contaminé? Est-ce que de la chimie? Est-ce que c'est radioactif? On appelle la GRC qui se rend sur place. On va constater qu'il n'y a pas de contamination ni chimique ni radioactive, mais on ne s'explique pas comment un cercle de gazon, de foin, a pu être redynamisé au mois de novembre. Moi, je suis arrivé sur place, j'ai pris des échantillons, j'étais pas seul, on travaillait à plusieurs personnes ensemble. Mmh. Ces échantillons ont été envoyés à l'Université Laval et crois-le ou non, on avait une augmentation de 1000% du taux de chlorophylle et de 400% du taux d'azote, entre 300 et 400% du taux d'azote. Et l'un des chimistes qui a travaillé à cette analyse-là, au laboratoire de phytologie de l'Université Laval, m'a dit, écoute, pour pouvoir redynamiser un champ en 48 heures en plein mois de novembre, il aurait fallu injecter de la chlorophylle à chaque brindille d'herbe incluse dans le cercle.
Ben voyons donc.
On ne connaît rien, ni de mécanique, ni d'artificiel, ni de naturel, qui peut redynamiser un champ de la sorte en plein mois de novembre.
L'affaire et tu racontes cette affaire-là dans ton livre. Tu racontes un ovni à Sainte-Marie-de-Montnoir.
Voilà, et j'étais là. Donc, c'est moi qui ai pris les échantillons. Là. J'étais le premier sur place, là, appelé par la GRC. J'arrive là, je vois ça. Écoute, encore aujourd'hui, ça fait quand même 31 ans de ça, Bernard.
Et t'es encore troublé?
Oui, je suis encore troublé. Quand je repense à ça, c'était pas une tourbière. Je n'ai jamais trouvé même pas un début d'explication à ce phénomène-là. Pour moi, ça, c'est très désarmant. Et là, ben, on a une trace physique. C'est pas que des témoins qui racontent, j'ai vu une lumière, j'ai vu un objet. Non, on a une trace physique. On a quelque chose, là. C'est vraiment, c'est un classique et je suis content d'avoir été impliqué dans cette histoire-là.
Oui, je suis content aussi. Alors, après la pause, on prend des appels, OK? Puis là, ben, ils vont nous raconter quelques histoires, Christian. Il y en a peut-être que tu vas connaître. Et puis c'est ça. Moi, ce que j'aime avec toi, Christian, là, c'est que tu es un sceptique.
Oui, c'est ça.
Non, mais tu es un sceptique. A priori, tu y crois pas. A priori, tu y crois pas.
En fait, Bernard.
Mais c'est vrai, a priori,
En fait, Bernard, il y a deux choses, hein, en commençant le livre, il y a deux choses sur lesquelles on s'établit bien, là. Je dis, les ovnis, en tant que phénomène aérien non identifié, ça existe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les gens voient des choses qu'ils n'expliquent pas et un faible pourcentage, entre 5 et 10%, vont demeurer inexpliqués, même après une investigation. Ça ne veut pas dire qu'on est visité par des extraterrestres, mais il y a des observations d'ovnis qu'on s'explique mal. Cela étant dit, là où on doit se poser la question, c'est est-ce qu'il s'agit de véhicules extraterrestres, intraterrestres, supradimensionnels? Est-ce que ce sont des engins secrets des militaires? Là, pour l'instant, on ne le sait pas. 80 ans n'a pas permis d'apporter une preuve définitive. Mais le phénomène OVNI, il est une réalité. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Mais il y a seulement 5 à 10 % qui s'expliquent.
Oui, 5 à 10 % Oui, ça s'explique par des explications assez conventionnelles.
Voilà. Après la pause, c'est Joseph qui nous appelle.
Parfait.
OK, on s'en va à Joseph. Bonjour, Joseph.
Salut Bernard, salut Christian.
On vous écoute, allez-y.
All right. Fait que, tu sais, dans des choses qu'on peut pas expliquer, là, voir un ovni, c'est quelque chose pareil. Je vais vous conter mon histoire. On est en 2014, au mois d'août, à Salmonhurst, en Colombie-Britannique. Je travaille sur une ferme qui est juste l'autre bord de la vallée de l'aéroport. Un petit aéroport là, d'aéronef là, récréatif.
Oui.
Et je suis là, on a fini notre journée de travail. Il est environ 10h30 le soir. On est en train de... Le staff et tout le monde, on est en train de faire un feu. Mm-hmm. Puis on relaxe notre fin de journée. Soudainement, on voit au travers de la vallée une lumière scintillante. Puis la lumière scintillante est pas très haute. Là. On parle pas d'une étoile, on parle pas d'un avion, quoi que ce soit. On parle de quelque chose littéralement à l'autre bord de la vallée, au-dessus de l'aéroport.
D'accord.
C'est une lumière qui scintille de plus en plus, comme si ça accumulait une charge électromagnétique.
Okay.
Et tout d'un coup, ça part comme un météorite, mais à l'envers. Au lieu de s'en venir vers la Terre, ça quitte la Terre avec une longue, longue, longue traînée lumineuse là, qu'on voyait aller dans le fin fond de l'espace.
OK.
Donc, qu'est-ce que tu en penses de quelque chose comme ça? Non?
Merci, Joseph, pour l'appel. Christian?
Ben, tu sais, quand les gens rapportent des observations d'ovnis, bien souvent pour eux, parce qu'il y a souvent une question, oui, les gens qui voient des ovnis, on va enlever tout de suite ici là des espèces de préjugés. Là. Non, ce ne sont pas toujours un agriculteur perdu au fin fond d'un bois dans le Wyoming. Là. Il y a des gens, on a des gens à peu près de toutes les catégories, de tous les groupes d'âge, de tous les milieux sociaux qui sont témoins d'observations mystérieuses. Maintenant, à partir du moment où tu as le témoignage, il faut une enquête de terrain pour essayer de déterminer ce que les gens ont rapporté. Donc, on a un témoin qui nous raconte ce qu'il se souvient de l'événement. Il faut toujours se rappeler qu'on rapporte jamais un événement, c'est toujours le souvenir de l'événement qu'on rapporte. Donc, il rapporte cet événement-là. Donc, il faut faire d'abord une recherche de terrain. Est-ce qu'il y avait des manœuvres aéronautiques dans le secteur? Est-ce qu'il y avait l'utilisation de drones? Bon, on doit éliminer l'ensemble de toutes les données avant d'arriver et conclure à un phénomène non identifié. Quand on fait ce tri-là, ouais, avec le filtre, on va éliminer de 90 à 95% des manifestations. Il y a un résidu de 5% qui va quand même demeurer non identifié. Peut-être que le monsieur nous raconte l'événement, je ne peux pas me prononcer parce que non. Bon, je n'ai pas mené l'enquête sur le terrain. On nous raconte l'observation. A priori, comme ça, je vois pas là d'emblée une explication qui viendrait là spontanément pour dire « bon, monsieur a vu tel ou tel truc », mais il faudrait bien sûr une investigation sur le terrain. Il y a une chose qu'il a mentionnée qui est très importante. Les gens, moi, écoute, ça fait presque 45 ans que je suis dans ce milieu-là, le nombre de fois où des gens ont essayé de me raconter des bobards, je pourrais les compter sur les doigts d'une main. Les gens sont fondamentalement honnêtes. Lorsqu'ils racontent leur observation, c'est ce qu'ils croient fondamentalement qu'ils ont vu.
C'est ça.
Donc, on tourne pas autour de ça, là. Donc, ça, c'est, on respecte le témoin. Maintenant, il faut essayer de déterminer qu'est-ce qu'il a observé. Et ça, parfois, c'est plus compliqué.
Là, juste, j'ai plusieurs textos. Il y en a un qui me dit d'abord, je sais que Christian aime les scientifiques. Donc ça, c'est
oui,
clair.
Bien sûr.
Hein, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Oui.
Il y a quelqu'un d'autre qui me dit, le manque de preuves de l'existence des extraterrestres ne prouve pas qu'ils n'existent pas.
Bien sûr.
Ça, c'est un argument intéressant. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'écrit, il dit, le cercle à Maryville est resté visible pendant plusieurs années. Est-ce que c'est vrai?
C'est tout à fait vrai. Et bon, d'abord, oui, c'est vrai, le fait de ne pas avoir la preuve que les extraterrestres n'existent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. La preuve de l'absence n'est pas l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Mais bien sûr, plus l'explication est extraordinaire, fantastique, on se doit de demander des preuves plus fantastiques que j'ai vu quelque chose. Tu comprends?
Oui.
Ça va de soi. Le cercle à Maryville, ce que le témoin ce que l'auditeur mentionne est tout à fait vrai. Hein? Le champ est resté, il y avait comme une espèce de cicatrice dans le champ et chaque été, et ça c'était spectaculaire, chaque été, lorsque l'herbe commençait à repousser, il y avait une végétation tout à fait atypique qui apparaissait sur ce cercle-là. Donc 20 mètres de diamètre.
Étonnant.
Là, tu avais une espèce de luzerne qui était tout à fait incroyable. Et crois-le ou non, Bernard, quand on utilisait Google Maps ou Google Earth, version 2006, qu'on allait se placer au-dessus du terrain en question. Et l'événement s'est produit en 1989. Les visions de Google Earth 2006 montraient le champ en question et on devinait encore l'empreinte du cercle de 20 mètres de diamètre. Et là, on était en 2006 sur Google Earth, donc pratiquement là, quoi, une vingtaine d'années.
Christian Page, OVNI au Québec, c'est sorti. Merci Christian.
Ça me fait plaisir.
Demain tout le monde.
Ouais, ciao.